טוב, ערב טוב. בעזרת השם, nous allons aujourd'hui développer deux sujets simultanément qui sont en réalité liés, à savoir le temps dans lequel nous sommes, le mois de Kislev, et la paracha de la semaine qui est Vayetse. Vous allez voir qu'en réalité, il y a un lien entre les deux niveaux, puisque la création tout entière ne peut pas se mesurer sans prendre en compte les trois éléments essentiels de la création. En effet, l'infini, lorsqu'il a créé le monde, eh bien, il a créé trois éléments essentiels. Les êtres, que ce soit les animaux, que ce soit les hommes, les végétaux, les minéraux, tout ce qui existe. Il a créé la notion de temps, qui n'existait pas avant. Le temps ne fait pas partie du divin. Le divin est en dehors du temps. Il s'habille dans le temps, il se dévoile dans le temps, mais il doit obligatoirement être au-dessus, sinon il aurait été limité comme nous. Donc on ne peut pas servir un Dieu qui est limité dans aucun domaine. Donc il a créé et le temps et les êtres qui agissent dans ce monde, ce qu'on appelle des nefashot en hébreu, et les espaces. Ici, là-bas, telle et telle terre, les planètes, les galaxies, l'univers tout entier. Et donc, étant donné que nous sommes sortis de cette unité essentielle et que nous sommes plongés et nous naissons dans un monde de détails, dans un monde de pluralité, dans un monde de pluriel, bien naturellement, chaque élément de ce pluriel a aussi son identité. Donc je suis obligé de prendre en compte les identités créées. Car si Akadosh Baruch Hu voulait qu'il y ait un espace ici et un espace là-bas, c'est qu'il y a une différence entre les espaces. Et je dois le connaître, je dois l'étudier. La même chose au niveau des êtres, je ne peux pas m'adresser à telle personne comme à une autre personne. Je dois savoir à qui je m'adresse, qui est la personne en face de moi. La même chose au niveau du temps. Les temps changent, les générations changent, et je ne peux pas parler à une génération comme je parlais à une autre. Donc tout doit être pris en compte. Et ce travail demande, exige une intelligence divine qui nous a été donnée par le développement dans la Torah. On parle donc de ofi, de caractère de chaque élément dans notre existence. Quelle est la spécificité du mois dans lequel nous sommes? Nous sommes dans le mois de Kislev. Le mois de Kislev, c'est un nom qui est relativement nouveau dans l'histoire. Le moi, lui, le temps existe, mais le nom n'apparaît que lorsque nous rentrons de l'exil de Babylone. Vous savez, avant l'exil de Babylone, on n'appelait pas les mois avec les noms que vous connaissez, Tishrei, Cheshvan, Kislev, Tevet. Il y avait les sangs, mais ils n'avaient pas de nom. Donc, ce mois de Kislev est l'un des éléments, en fait, récupérés dans l'exil de Babylone. Car chaque exil nous permet de sortir pour ramener quelque chose. C'est en réalité la seule existence de l'exil, le pourquoi de l'exil. Chaque exil doit contenir et contient quelque chose que je dois récupérer pour ramener vers mon identité. Par exemple, Yaakov va sortir dans notre Shabbat en exil pour aller récupérer des pertes, des éléments qui ont été perdus. Quels sont ces éléments? Eh bien, ce sont quatre femmes. Rachel, Léa, Bilha et Zilpa. Toutes ces femmes se trouvent à l'extérieur. Il faut aller les chercher parce que c'est avec ces femmes-là que le peuple d'Israël va être fondé. Réellement, concrètement. Donc Yaakov va devoir sortir en exil pour récupérer ces diamants qui sont tombés au moment même de différentes perturbations dans la création du monde voulue par Akadosh Baruch Hu. Donc en réalité, la même chose au niveau des mois. Le mois de Kislev s'était perdu dans les oubliettes avec ses caractéristiques. Il y avait un mois, mais personne ne savait utiliser la puissance cachée dans ce mois avant que n'apparaissent les Hashmonaïm, les fameux acteurs de l'histoire de Hanouka. Donc, ces hommes d'Israël, qui étaient des sages dans la Kabbalah, ont compris le secret, la formule cachée dans le mois de Kislev, et tout simplement ont utilisé cette force qui n'a jamais été utilisée auparavant. Donc il faut étudier le temps pour savoir ce qu'il contient. Et je ne peux pas vivre un temps comme j'ai vécu le mois dernier. Le mois dernier, c'était le mois de Cheshvan. Aucun rapport avec Kislev. Il y avait un abord différent, une approche différente que celui, que celle que je dois avoir aujourd'hui. Mais si je ne connais pas ces secrets, je vis pareil et j'ai l'impression que le temps passe. Tout ce que je suis en train de vous dire, c'est une Gemara dans le traité de Shabbat à la page 75. La Gemara là-bas nous dit de faire très attention au temps. Si on ne fait pas attention au temps, eh bien, on va vivre pareil tout le temps. Et donc, on est en train de rater la valeur du temps. De la même manière que si je vous parle avec un langage qui ne correspond pas à la génération de maintenant, je suis à côté. D'accord ? Et je ne peux pas être à côté. J'ai besoin de savoir de quel caractère est la génération dans laquelle je vis pour pouvoir me mettre au niveau de ma propre génération. Donc il y a ici une étude qui est demandée, qui est exigée. On appelle ça dans la Torah « Yod'e bina le'itim ». Il faut savoir avoir le discernement. Généralement, ça se place dans le cerveau gauche de l'homme pour savoir les nuances du temps. Et selon le temps, je m'adapte. De la même manière que tous les jours de la semaine sont différents. Aujourd'hui, on était le jour 3. Le jour 3, ce n'est pas le jour 2. Hier, il fallait agir dans le monde différemment qu'aujourd'hui. Et aujourd'hui, aucun rapport avec demain. Demain, il y a une approche différente. Là aussi, on ne comprend rien. Et on vit. Un coup c'est dimanche, un coup c'est mercredi, un coup c'est jeudi, on attend Shabbat, on ne sait pas trop. L'étude que nous propose la profondeur de la Torah, c'est de savoir respecter les instants dans lesquels je me trouve. Les hommes, les femmes avec lesquels je parle. Le lieu sur lequel je me trouve. Je ne peux pas me comporter ici comme là-bas. C'est très important. Et cette fidélité aux éléments avec une résolution très très pointue. Aujourd'hui, on exige dans tous les domaines. Vous voulez des pixels extraordinaires dans vos écrans. Vous voulez une résolution dans vos photos. Mais c'est la même chose dans le judaïsme. On ne peut pas vivre le judaïsme comme si c'était un degré archaïque, loin, alors que dans tous les progrès scientifiques, vous voulez de plus en plus de résolution, de précision. Mais la Torah exige une précision. Mon maître, Alav HaShalom, le Rav Zuckerman, c'était le roi, le maître de la précision. Et c'est en réalité l'élément le plus essentiel que j'ai pris de lui. Parce que je voyais la précision de ses mots et de ses façons d'aborder, de traduire C'est tellement difficile de traduire le fait que je vous parle en français maintenant. C'est très complexe. Je croyais que c'est facile. Parce qu'en réalité, je suis en train de faire un travail à l'intérieur pour traduire des notions qui sont en hébreu, qui sont reliées à la source divine. Et donc, pour ne pas trahir cette pensée, il faut que je fasse de la gymnastique. Alors, vous, en français, on a l'air de juste, ça coule de source. Pas du tout. Ça coule pas du tout de source. C'est l'hébreu qui coule de la source. Là, nous sommes dans un langage rapporté qui doit nous faire entendre des choses qui ont été dites dans le langage du divin. Vous vous rendez compte? C'est une traduction dans une autre langue. Dans un autre langage, dans une autre sémantique. C'est énorme. Et donc, quelle est la spécificité du mois dans lequel nous sommes? Nous sommes dans le mois de Kislev. Donc d'abord, nous devons décortiquer le nom. Je vous ai dit que les noms des mois sont montés de Babylone. Autrement dit, ils étaient dans l'exil de Babylone. Il fallait donc aller les chercher, les sortir de cet exil et les libérer, les délivrer. Le mois de Kislev se compose de 4 lettres. Kaf Samer, Kes, Lamed Vav. Bizarre. Eh bien, Kes en hébreu veut dire un trône. Kes Hamalchut, comme qui sait. Kes Hamelech, le trône du roi. Lamed Vav, 36. Lamed, c'est la lettre la plus élevée qui descend. C'est un enseignement. Il y a quelque chose qui vient du très haut et qui va descendre. Et Vav, c'est le lien. Alors, c'est très, très, très fondu, très confondu, très dans le brouillard. Je ne comprends pas encore de quoi s'agit-il. Mais les sages, pour nous être de plus en plus abordables, nous ont donné une formule que nous récitons au moment de 8 jours de Hanouka. Et dans cette formulation de nos sages, qui était de très très haut niveau, ils ont trouvé une formule pour nous condenser à l'intérieur, secrètement, la spécificité du mois de Kislev dans lequel nous sommes. Et quand je vais vous dire ce que vous répétez chaque année, peut-être, à la Nissim, à la Pourkan, à la Gvurot, à la Tchouot, à la Ishuot, à Sita la Voten, ou Bayamimahem, Bazmanazevi, Mematitia ou Ben Yochanan, quoi? Quoi? C'est quoi? Eh bien, il y a une phrase là-bas qui est la formule secrète du mois. Masarta giborim beyad chalashim verabim beyad me'atim. Akadosh Baruch Hu, tu as fait quelque chose, tu as donné les faibles, ceux qui paraissent faibles aux mains, ils ont gagné les forts, et tu as donné les nombreux à la main, à la portée de la main des moins nombreux. C'est encore difficile. En réalité, je vais vous traduire ce que les sages nous disent. La formule qui correspond au mois de Kislev est la suivante. La qualité doit gagner sur la quantité. Voilà. Le mois de Kislev, c'est ce que vous allez devoir faire. Alors vous avez de la chance, on est encore au début du mois. Tout ce mois-ci, il faut vous focaliser sur la qualité plutôt que sur la quantité. Dans tous les domaines que vous êtes dans votre vie, chacun dans son domaine va trouver exactement le point. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, on s'est occupé de plein de choses. Il va falloir ce mois-ci concentrer, converger vers la qualité des choses. Il vaut mieux un tout petit peu de qualité que beaucoup de quantité qui n'a pas en réalité sa véritable valeur. Qu'est-ce que c'est que la qualité par rapport à la quantité? Attention, je ne suis pas en train de dire que la quantité n'est pas importante. Je suis juste en train de dire que la qualité doit dominer la quantité. Qu'est-ce que ça veut dire dominer? Elle doit l'aider, elle doit la conduire. Elle ne doit pas la détruire. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit tout simplement que même les choses quantitatives dans notre vie doivent être accompagnées par la qualité. Ne laisse pas la quantité prendre le dessus. Mets dans chaque chose dans ta vie de la qualité. C'est ça que ça veut dire. De la même manière qu'un cavalier chevauche son cheval. Le cheval n'est pas à négliger, mais c'est le cavalier qui va diriger les choses. De la même manière que votre âme doit diriger votre corps. Donc le moi de Kislev, il va falloir donner plus de place à votre qualité intérieure qui est l'âme, pour que cette âme dirige tous les éléments, les déplacements, les mouvements du corps extérieur. Et le peuple d'Israël a reçu ce secret. La preuve, c'est qu'aucune nation ne peut sortir des choses pareilles. Vous ne pouvez pas entendre un cours qui vous parle de ça chez aucune nation. Ben, tout simplement parce qu'aucune nation n'a reçu la Torah. C'est nous qui avons reçu ces clés. Donc nous avons et les clés du temps, et les clés des identités, et les clés des espaces. À condition que j'ouvre avec ces clés les éléments. Alors, vous avez tout à portée de main. Il suffit d'étudier. Tout ce que je suis en train de vous dire, c'est dit par le roi David dans les Tehillim 147. Magid dvarav le Yaakov, chukav ou mishpatav le Israël. Tous les secrets de Dieu, il les a donnés à Yaakov et à Israël. C'est le même. Lo asachen le chol goy, ce qu'il n'a pas fait pour aucune autre nation. Ou mishpatim bal yedaoum. Les nations du monde ne savent même pas de quoi je suis en train de parler. Est-ce qu'on utilise? Vous avez un porte-clés avec trois clés. Et vous vous baladez avec ce porte-clés durant toute votre vie. Une, il y a marqué clé du temps. Deuxième clé, la clé de l'espace. Troisième clé, clé de l'identité. Vous ne cherchez pas à savoir ce qu'elles ouvrent. C'est terrible de se balader dans son porte-clés avec des clés pendant... D'ailleurs, on a toujours une clé comme ça. On ne sait plus ce qu'elle ouvre. C'est angoissant quand même. On aurait aimé se rappeler à quoi ça sert, quoi. Mais on a trois clés extraordinaires. Et je vous propose aujourd'hui un voyage avec la clé du temps. On va ouvrir ensemble le temps de Kislev. Et on va voir Kislev. Dans la paracha de la semaine, et maintenant je vais introduire, vous allez voir que ça se combine avec, parce que ce n'est pas par hasard. Si on lit telle section de la Torah, tel mois, c'est qu'il y a une correspondance. Dieu lui-même a les clés dont je vous parle. Donc il sait exactement quelle section de la Torah mettre à quel moment. De la même manière que quand tu montes à la Torah, il faut que tu saches la montée, ce qui a été lu pour toi. Parce qu'en réalité, ce n'est pas une lecture et toi tu montes, et mon copain monte, et lui monte, et l'autre monte. Non. Chaque montée parle de ta vie. Au moment où tu montes, c'est ton histoire dans la semaine. Si tu ne prends pas conscience de cela, tu rates ta montée, tu rentres chez toi, tu dis à ta femme, je suis monté à la Torah. Ah, sympathique, magnifique. Ça ne sert à rien. Je monte à la Torah, on va lire une section, un passage, c'est l'histoire de ma vie de maintenant. Et si je ne fais pas attention à ça, eh bien j'ai raté un message qui m'a été donné du divin directement, une prophétie que tout le monde entend, moi aussi, et je fais comme si de rien n'était. Juste ce qui m'intéresse, c'est de faire la bracha avant, la bracha après je vais m'asseoir, je vais serrer la main aux gens. Chazaku baruch, chazaku baruch. C'est horrible, horrible. Et donc, chaque fois que vous entendez quelque chose, c'est que ça doit vous toucher. C'est que le moment est venu que vous entendiez cette chose-là. Alors, dans la paracha de Vayetse, il y a aussi une formule cachée. Yaakov va sortir, en fait, de Be'er Sheva, et il va aller à Haran. Il va sortir, je vais réutiliser la terminologie de tout à l'heure, il va sortir du monde de la qualité pour aller vers le monde de la quantité. Vous n'êtes jamais posé la question pourquoi le peuple d'Israël ou la terre d'Israël, c'est les plus petits au monde. Chaque fois que vous rigolez, on met une épingle sur Israël, on ne voit plus rien, on ne sait même plus lire, tu vois la carte du monde, il n'y a même pas la place de marquer Jérusalem, ça a effacé tout déjà. Il y a une raison à ça. Parce que nous ne sommes pas dans la quantité, nous sommes dans la qualité. Et cette qualité doit diriger la quantité. Tout ce qui est qualitatif est toujours plus petit. Un exemple. La plus petite lettre de l'alphabet, le Yud, c'est la lettre avec laquelle on écrit n'importe quelle lettre. Si vous voulez écrire un Vav, c'est un Yud, mais vous prolongez. Si vous voulez écrire un Lamed, vous commencez par un Yud et après vous continuez. Si vous voulez écrire un Tadik, vous écrivez un Yud, après vous tirez à droite, à gauche, c'est toujours commencer par un Yud. Et ce Yud-là, comme par hasard, c'est lui qui commence et notre peuple, et notre terre, et notre tout, Israël, Yud. Le nom de Dieu, Yud, qui est le tétragramme. Yerushalayim, Yud. Bizarre quand même. Il faut que vous compreniez que chacun d'entre nous doit savoir où est la qualité de son être par rapport à la quantité de son être. Sinon, la quantité va prendre le dessus. Et donc, tu vas vouloir naturellement prendre du volume, alors que normalement, tu te serais suffi de la qualité si tu croyais dans cette qualité. Et donc, il y a ici une formule secrète. C'est que Yaakov, lui aussi, il va sortir de la qualité, Be'er Sheva, petit parenthèse. Qu'est-ce que c'est Be'er Sheva? Comment vous traduisez ça? Les sept huit? Non, pas du tout. Les sept huit, c'est Shiva Be'erot, ou Sheva Be'erot. Be'er Sheva, c'est une autre traduction. Vous voyez comment c'est difficile? Be'er, la source, le puits, la lumière. Be'er vient du mot or. Be'or, comment je dis expliquer un texte? Be'ur. Donc, Be'er, c'est le puits, le fond, l'essence, la quintessence. De quoi? Des sept. Be'er, Sheva. Et pas les sept puits. Différent. Qu'est-ce que c'est le puits des sept? La source des sept. Les sept puisent leur vie de ce puits. Donc, s'il est la source des sept, qu'est-il lui-même? Quel chiffre on pourrait donner à ce puits? S'il est la source, la racine des sept, ou un, ou huit. Un, c'est la source, et huit, c'est pareil. En hébreu, comment vous dites huit? Neshama. Pardon, Shmoné. C'est la même lettre. D'ailleurs, on va rencontrer ce Shmoné, cette Neshama, à la fin du mois. Shemen. L'huile de Hanouka. Maintenant, vous comprenez pourquoi? Parce que là-bas se cache l'essence même de la vie. Au niveau des dizaines, c'est le chiffre 50. Après 7 fois 7. 7 fois 7, c'est toujours 7, c'est la nature. Donc 49, c'est la nature. Le chiffre 50, hors nature. 7, nature. 8, hors nature. L'infini, c'est le grand 8. Donc moralité, quand Yaakov va sortir maintenant de Be'er Sheva, il sort de quel chiffre il sort? Du 8. Pour descendre dans le 16. Dans les 7 degrés de ce monde. Parce que le monde naturel est lié à la quantité, et la quantité, c'est 16. Alors, je vais vous raconter une histoire que vous connaissez tous, hein, c'est la même. Seulement, vous avez plus l'habitude, mais vous croyez que c'est des bêtises. ce 8 ou ce 1 qui est en haut, c'est la blancheur totale. Avant toutes les noces, avant tous les détails de ce monde. Dans ce monde, il y a des notes. Okay, nous avons des musiciens ici, de très haut niveau. Il y a 7 notes, c'est tout. Pourquoi ? Parce que c'est la nature. Mais en réalité, il y a une 8e note. Elle est cachée. Elle se révélera à la fin des temps. Cette 8e note, elle est plus dans le secret du silence que dans une des notes. Do, ré, mi, fa, sol, la, si. Seulement nous, nous sommes dans un monde de temps, d'espace, de couleurs. Donc on va voir les 7 degrés. Mais sachez qu'il y a une blancheur supérieure. Elle s'appelle Blanche-Neige. Et elle a en bas 7 nains. Je ne vous raconte pas d'histoire. Je ne suis pas en train de vous tourner en bourrique. Hein. C'est une véritable identité. Seulement, on a grandi sans comprendre les choses. D'ailleurs, que vous le sachiez, tous les dessins animés que vous connaissez, les classiques, tirent leur essence de la Kabbalah. Alors, je ne vais pas tous vous les faire maintenant. Mais c'est ça, Blanche-Neige et les 7 nains. Dans la Kabbalah, on l'appelle Blanche-Neige. Rivarté, on l'appelle la blanche comme neige. Et elle donne à manger, elle nourrit, elle fait vivre les 7 nains. Pourquoi ils sont nains ? Parce qu'ils sont dans ce monde, c'est la quantité face à la qualité. Il faut les deux, oui. Alors il y a les forces du mal qui essaient de briser ce lien. C'est la sorcière, c'est tous les autres. Mais on ne peut pas faire du mal à la blanche neige. Donc on va essayer de perturber les nains. Donc quand vous vous perdez dans les nains de ce monde, dans vos propres nains, dans vos propres histoires naines, en réalité, vous avez oublié Blanche-Neige. Et vous êtes en train de partir dans des histoires, à dormir debout, à vous bagarrer entre Grincheux et l'autre. C'est tout. C'est tout ce que vous faites dans la vie. Et c'est une perte de temps incroyable. Je reviens. Yaakov va rêver, en sortant donc de cette Blanche-Neige, il va descendre vers les 7 nains. Donc il est sorti de Be'er Sheva et il est parti à Haran. Qu'est-ce que c'est Haran ? C'est le nom d'un lieu. Oui, mais la Torah c'est un code. Donc le mot Haran tire son mot dans 3 lettres, la racine Chet, Resh, Nun, Haron, qui veut dire colère. Donc quand tu quittes Blanche-Neige, t'es automatiquement dans la colère de Dieu. Parce que t'as oublié la route principale de ta vie. Et t'es tombé dans les détails de ce monde, c'est-à-dire dans les 7 nains, qui te rendent fou. Et donc, regardez maintenant le verset, je vous le retraduis, c'est incroyable. Et Yaakov est sorti de Blanche-Neige, il est allé chez les 7 nains, qui s'appellent en fait la colère de Dieu, parce qu'il est sorti du monde de l'unité pour arriver dans un monde de pluralité et se perdre à l'intérieur. Voilà ce que ça veut dire. Alors, si vous croyez que c'est une histoire qui s'est passée il y a 3800 ans, chez notre petit patriarche Jacob, alors on laisse la Torah dans son armoire, c'est tranquille. Et de temps en temps, la sort, ça lui fait plaisir, on aère un petit peu le parchemin. Mais en réalité, on parle de nous. Et si cette semaine, je vais lire cette paracha, ça veut dire que Dieu est en train de me mettre en garde. Fais attention de ne pas quitter ton mainstream, ton chemin essentiel de la vie, et aller te perdre dans les détails de ta vie, dans les 7 petits nains. Que tu as l'impression que c'est l'essentiel. Donc ça s'appelle Haran, c'est la colère. Alors avant de sortir, Dieu apparaît à Yaakov sous la forme d'un rêve. Pourquoi ? Parce que le rêve, c'est une prophétie. Et quand je suis prophète, je reçois en fait des valeurs qui viennent de l'infini. Donc les vraies valeurs. L'infini pour nous, c'est quel chiffre? On vient de le dire. Le 8. Ok? Alors, Vayachalom, Yaakov va rêver. Ça, c'est votre traduction dans tous les livres. Mais en réalité, Chalom, c'est aussi trois lettres dans la racine. Ré, Lamed, Mem. Vous connaissez les voyelles en hébreu? Il y a une voyelle qui s'appelle Cholam. Qu'est-ce que c'est le Cholam? C'est un point au-dessus de la lettre. Vous avez la lettre Vav et vous avez un point au-dessus dans l'espace. Et alors vous dites Oh. Bizarre, hein? C'est quoi ce point dans l'espace? Il n'est pas trop trop loin parce que sinon il n'a aucun rapport avec la lettre. Donc il est dans un espace convenable pour aider la lettre comme le huitième degré qui est la Neshama qui est au-dessus, bien loin du corps, tout en le dominant et en lui donnant une direction. Donc on va s'appeler Cholam. Et si tu as cette Neshama qui fait ce travail en toi, tu ne peux pas tomber malade. Comment on dit malade en hébreu? Machal, c'est la même chose. Cholam, à l'envers. Machala. Et donc, si tu es guéri par ton âme, parce que justement, ta conscience de ton âme, tu as la guérison. Comment on appelle les guérisons? Achlama, c'est les mêmes lettres, encore une fois. Machlil, Achlama, c'est comme Machala, à l'envers. C'est-à-dire, la guérison se trouve dans la maladie, à condition que tu trouves le Cholam. Maintenant, vous comprenez pourquoi, quand vous mangez du pain, qui sont les mêmes lettres, l'Echem, eh bien, tu dois le tremper dans le sel, qui s'appelle Melach, encore les mêmes lettres. Ça veut dire qu'en réalité, quand vous faites ça, c'est pas de la sorcellerie. Parce que si j'éteins vraiment le son de la caméra et je viens vous filmer, mais Edouard, tu fais peur. Tu lèves deux pains comme ça, je mets une musique d'angoisse. Et tu viens, tu coupes un petit morceau, tu mets un chien, et tu commences à jeter comme ça. J'ai envie de dire, oh là là, c'est quoi ça? C'est une secte. Imaginez-vous, tu sors de chez toi tranquille, tu rentres sous côte dans une synagogue, en plein milieu du Hallel, et tu vois 200 personnes en train de dire Oh, oh. Il rentre chez lui, il dit à sa femme, écoute, j'ai vu une secte, c'est terrible. Alors n'en parlons pas à la fin de Soukhot. Tu les vois tous avec des branches comme ça, en train de taper par terre. Mais c'est quoi ça? Je les ai vus avec un citron jaune. Ils étaient tous comme ça, en train de faire le tour. Oh, Shana, oh, Shana. Ça fait vraiment peur. Je vous garantis. Vous avez vécu là-dedans, mais vous ne comprenez pas. Un martien qui vient ici, il se dit, j'ai vu un truc incroyable. Je reviens. C'est exactement la même chose. Akadosh Baruch Hu va venir chez Yaakov en rêve. Et qu'est-ce qu'il va voir, ce Yaakov? Une échelle. Un soulam. Est-ce que vous avez fait attention comment s'écrit Soulam là-bas dans la Torah? Avec Vav ou sans Vav?
Sans Vav.
Sans Vav. Comme Selam. Quelle est la valeur numérique de Soulam sans Vav? Sinaï. La même valeur numérique. Alors vous allez me dire, oui, c'est par hasard. Non, c'est pas par hasard. Yaakov est en train de voir le don de la Torah au Mont Sinaï sous la forme de l'échelle. Pourquoi? Mais parce que le don de la Torah, c'est une échelle de valeur qui nous fait descendre dans notre monde qui se trouve dans le Très-Haut. C'est-à-dire Blanche-Neige descend chez les sept nains, pour reprendre l'exemple de tout à l'heure. Eh bien, la Torah, elle vient de chez Blanche-Neige, elle est la blancheur, et elle descend dans les sept degrés de notre monde. Donc Yaakov et l'échelle, c'est la même chose. n'y a pas Yaakov et l'échelle. Yaakov, c'est l'échelle. C'est lui. Maintenant, Yaakov, c'est la matrice du peuple d'Israël, donc l'échelle de Yaakov, et Yaakov, c'est toi. Toi. Et moi. Et elle. Chacun d'entre nous, c'est cette échelle. Et qu'est-ce qui se passe dans cette échelle? Eh bien, il y a des anges qui montent et qui descendent. Pourquoi pas qu'ils descendent et qu'ils montent? Vous êtes posé la question? Vous croyez que la Torah, elle raconte des histoires? C'est tout simplement parce que la Torah n'est pas un livre de philosophie. Si c'était un livre de philosophie, eh bien, les anges monteraient, sans jamais redescendre. Mais la Torah, elle n'en a rien à faire des anges qui montent. Elle veut des anges qui montent et qui redescendent dans ce sens-là. Ça veut dire quoi? Qui sont ces anges? Ce sont les pensées du rêveur. Donc les pensées de Yaakov. Et donc ces pensées vont monter, pour quoi faire? Pour aller voir ce qui se passe chez Blanche-Neige. De quelle qualité elle est faite. Et redescendre ses pensées, ses anges, pour appliquer ce qu'il a compris là-bas, chez les sept nains. Alors, le but, c'est que les sept nains deviennent la blancheur. Vous avez compris? Donc les anges vont monter, vont descendre dans cette échelle de valeur. Eh bien, c'est la même chose. On vient de parler du mois de Kislev. Quelle est sa spécificité? C'est que la qualité va descendre, dominer la quantité. C'est tout. Comment on va appeler la quantité? Je suis en train de vous donner, en fait, des, comme on dit, kinouim, des surnoms à la quantité. Alors, je vais vous rajouter encore un surnom. La quantité s'appelle Yavan, la Grèce. Yavan, c'est la Grèce. Est-ce qu'on doit jeter l'intelligence, la culture grecque? Pas du tout. Vous savez qu'on a le droit de lire la Torah en grec, même si elle est écrite en grec, en français, en anglais, en espagnol, en grec. Parce que la Grèce, c'est une intelligence. Donc, qu'est-ce que tu fais avec cette intelligence? Bien, il faut lui rajouter juste la dimension de Blanche-Neige, le tzaddik. Eh bien, si tu rajoutes la lettre tzaddik, qui veut dire tzaddik, à Yavan, tu obtiens Sion. À Machazir, Shrinatol et Sion. Tu reviens à Sion. Donc, un Yevani, un grec, avec un sadique devant, ça devient un sionite. Incroyable quand même. Alors qu'est-ce que c'est qu'un sionite? Ben, c'est un grec, mais avec des valeurs de la Torah. Donc, il peut se servir de sa conscience, de son intelligence, parce qu'il est relié à la source divine des choses. Ce que les Grecs, eux, ne voulaient pas. Eux, ils voulaient couper entre l'intelligence humaine et ce qu'il y a au-dessus. Alors qu'est-ce qu'on fait à Hanouka? On dit non. Nous, on veut l'intelligence, mais on va faire descendre une lumière qui vient du Très-Haut. C'est les lumières que vous allumez à Hanouka. Elles viennent du Très-Haut. On les appelle Or Haganouz, la lumière cachée. Cette lumière vient de l'infini. Et elle va éclairer le monde fini dans lequel nous sommes. Donc combien de lumières il va falloir? 8. Maintenant vous comprenez pourquoi? Parce que toutes les lumières de Hanouka, tu peux les appeler Blanche-Neige. Cette année, ils vont devenir fous. Vous allez tous penser à Blanche-Neige. Dans vos lumières de Hanouka. Et comment est-ce que vous allez appeler ces lumières Hanerot Halalu? Kodesh. Oh, c'est Kodesh. En l'amour et chouk l'ishtamej vein. Je ne peux même pas les utiliser parce que ça vient d'un monde tellement haut qui vient tout simplement éclairer ma vie. Ça où? Et pourquoi je dois voir ces lumières? Kedel et Hotot Ishmecha. pour pouvoir remercier ton dévoilement. Shem, c'est le dévoilement. Donc toute cette lumière de qualité dans le monde de la quantité dans lequel je suis. Et donc les pensées s'élèvent, comme les anges, pour redescendre et appliquer dans le monde dans lequel je suis toutes ces pensées. Pour ne pas que mes pensées soient stériles. Si mes pensées sont stériles, ça s'appelle du zera lebatala. C'est-à-dire de la semence gaspillée, qui ne donne rien. Ce qu'on appelle akara, quelqu'un qui est stérile. Maintenant, vous comprenez que cette qualité, qui est en réalité une formule secrète, c'est ce qu'on dit à Hanouka. Mais nous, on n'est pas encore à Hanouka, mais cette lumière existe déjà. Ce n'est pas la peine d'attendre jusqu'à la fin du mois pour arriver à Hanouka. Maintenant, vous avez la chance d'avoir cette information au début du mois. Donc prenez conscience de cette puissance du moi de Kislev. Même quand c'est encore caché, et je reviens au nom de Kislev, Kes veut dire aussi caché, Kisui, Kis. Donc ce moi, Kes, Kisui, il cache Lamedvav 36. Que vous appelez en français les 36 chandelles, qui sont les 36 lumières, qui sont les 36 tzadikim, qui tiennent le monde. Donc le mois de Kislev, il y a un éclairage des 36 degrés essentiels de la vie qui éclaire notre monde, seulement c'est caché. Kislev. Et moi je dois faire en sorte de dévoiler ces lumières, je le fais à Hanouka, ou bien même maintenant. Si j'ai déjà conscience de ce qui se passe le mois de Kislev, je fais en sorte de dévoiler les secrets qui sont cachés dans ce monde. De quelle catégorie sont ces secrets? Le Zohar HaKadosh nous dit de la lumière de la Chokhmah. Qu'est-ce que c'est que cette lumière de la Chokhmah? C'est une lumière divine qui est l'essence de la vie. Le roi Salomon nous dit « Vers Chokhmah, cette Chokhmah-là, elle fait vivre ses propriétaires, ceux qui ont arrivé à la terre. Ça veut dire que si tu vis, c'est parce que tu as cette Chokhmah. Et si tu l'inverse, c'est que tu n'as pas eu cette Chokhmah. Et dit le roi Salomon, Yamutu, ils mourront, velo bechokhmah, parce qu'ils n'ont pas eu cette Chokhmah. Donc celui qui n'a pas cette Chokhmah s'appelle mort. Celui qui a cette Chokhma s'appelle vivant. Pas comme vous, vous voyez les morts et les vivants. À tel point que le Zohar va nous dire que grâce à cette lumière de la Chokhma, tu peux faire vivre les morts. Triat Hametim, la résurrection des morts, ce qui était l'apanage de tous ceux qui étaient au Sanhedrin. Vous savez qu'on ne peut pas rentrer dans le Sanhedrin si on ne remplit pas certaines conditions. Sanhedrin, c'est tous les sages d'Israël. Il fallait savoir, entre autres, faire vivre un mort. Donc c'était l'examen d'entrée au Sanhedrin. Alors je vous pose la question, c'est quoi faire vivre un mort? Je vais vous donner la réponse. C'est qu'on t'amène chez toi un type, une femme, complètement désemparée, désespérée de la vie. Et elle doit ressortir de chez toi souriante, heureuse. C'est ça la résurrection des morts. C'est pas faire vivre un mort dans le premier degré du terme. C'est-à-dire que tu vois quelqu'un qui est pas bien et à ta proximité, juste parce qu'il t'a rencontré, quelques minutes, il va sortir avec un sourire, avec une joie de vivre. Eh bien, ça fait revivre un mort. Vous avez cette capacité? Deuxième degré, il faut transformer la nuit en jour. C'est la même chose. Tu crois qu'on va te mettre la nuit à 8 heures du soir en hiver et on va te dire, allez maintenant, fais-nous le jour. C'est la même chose, c'est la même conception, vous avez compris. Ce qui est noir dans ta vie, je te demande maintenant de transformer l'obscurité que tu considérais comme obscurité jusqu'à maintenant en lumière. Tu es capable de faire. Tu peux rentrer au Sanhedrin. n'est pas capable, reste dehors. Pas pour toi qui es un pessimiste. Le Sanhedrin, c'est des optimistes. Ils savent faire vivre un type qui est mort. Ils savent transformer le noir en lumière. Tu leur donnes une nourriture, encore un autre degré. Une nourriture qui est amère en douceur. La même chose. C'est-à-dire, ils vont essayer de te faire avaler quelque chose dans la douceur alors que tu as du mal à l'avaler. Parce que ça te paraît être waouh. Moralité, non, de place dans cette forme de Sanhedrin que ceux qui sont optimistes. Et ça, c'est le secret de Hanouka. Ça, c'est le secret du mois de Kislev. Le mois de Kislev, c'est un mois où nous allons avoir des attirances à... Vous voyez, quand est-ce que c'était Rosh Chodesh ? Vendredi. Alors, depuis vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi. D'accord ? On est le 5. Nous disent les Chachamim, je ne sais pas si c'est vrai, hein, que le mois de Kislev, vous allez avoir envie de dormir. De plus en plus. Pourquoi ? Et justement, parce que le travail du mois de Kislev, c'est savoir de qui se lève. Qui est capable de se lever au moment où le monde va dans un sommeil. En plus, on t'a changé l'heure, l'Aïstar à 4 heures, tu as l'impression que c'est la fin du monde. Vite, vite, on rentre à la maison. Il fait nuit. Eh bien, c'est là où tu es en train de passer ton examen. Le mois de Kislev, c'est le... summum, le sommet du noir, et il doit être le sommet de la lumière. Tu dois transformer ce mois de noir en mois de lumière. Donc je suis en train de vous donner une clé essentielle pendant le mois. C'est pas un cours de Torah où vous avez appris que machin, c'est une clé pour la vie rabotaille. Aujourd'hui, on peut plus enseigner la Torah comme avant. Aujourd'hui, la Torah qui doit être enseignée, c'est une Torah avec laquelle tu sors et tu vas être plus vivant que lorsque tu es rentré. C'est ce qu'on appelle Etz Haïm. C'est l'arbre de la vie. Et quand vous allez goûter de cet arbre de la vie, bien de chaque cours que tu sors, tu dois être transformé. Transcendé. Parce que tu as touché quelque chose ou bien quelque chose t'a touché. C'est une lumière cachée qui va se transformer. D'ailleurs, le deuxième degré de cette lumière que dit le Zohar, c'est pas seulement de faire vivre les morts, mais d'annuler tous les mauvais décrets sur la personne. À quelqu'un, Chas v'Shalom, qui a un mauvais décret sur lui, grâce à cette lumière qui circule dans l'air du mois de Kislev, tu peux demander à Kadosh Baruch Hu, maintenant, en sortant du cours, Kadosh Baruch Hu, grâce à la lumière, maintenant que je sais qu'elle est là, encore plus prédominante pendant le mois de Kislev, je viens de l'entendre dans le cours, eh bien, fais en sorte que tous les mauvais décrets qu'il y a eu sur, que tout disparaisse. Il n'y a que cette lumière qui peut faire ça, Rabotai. Bien entendu, c'est une lumière divine, ça lui appartient à lui. Mais il nous l'a donné cadeau pendant le mois de Kislev, mais ça, vous ne pouvez pas le savoir sans venir au cours. Et vous allez croire que c'est encore un mois dans l'année. Hein, qu'est-ce qu'il y a le mois de Kislev ? Il y a Hanouka. Ah, c'est très sympathique. Par contre, le mois de Tevet qui vient juste après, ou alors, tu ne sais même pas ce qui se passe. Alors quoi ? Eh bien, il faut étudier les mois. Il y a donc ici un caractère bien défini du mois de Kislev, du temps dans lequel nous sommes, ce qu'on appelle un Zman. Vous savez de quelle racine vient le mot Zman ? Les Amen, c'est une invitation, un imazmin. Le Zman, c'est une invitation à quelqu'un, à quelque chose. Eh bien, je suis en train d'inviter, ou l'invité du mois, c'est... l'optimisme. Voilà ce que ça veut dire. Et si toi, dans ta vie, tu es optimiste, eh bien, ce qui se ressemble, s'assemble. Massa min et mino veneo. Comme ça on dit en hébreu. C'est-à-dire, si tu as une qualité de receveur parce que tu es optimiste, bien, tout l'optimisme de l'univers, tu vas l'attirer. C'est tout. Mais si chas v'shalom, tu es pessimiste, eh bien, l'optimisme qui tourne autour, il ne trouve pas un élément qui peut le contenir, puisque c'est son inverse. Donc, il tourne autour, il le laisse. Donc, l'optimiste va se remplir de lumière, et le pessimiste va encore rester de plus en plus dans le noir, chas v'shalom. Il attire le noir. Moralité, c'est en prenant conscience de ce qui se passe dans l'univers maintenant, puisque nous sommes dans Kislev, donc je parle de Kislev, que je peux attirer en fait les forces de l'univers qui correspondent à mon état. Donc tâchez d'être éveillé. Le plus possible. Quand je dis éveillé, c'est pas qu'il faut pas dormir. Mais même quand tu dors, il faut rêver. Parce que le rêve te guérit de tous les maux. Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, dans plusieurs cours, on ne va pas dormir pour se reposer, on va dormir pour rêver, uniquement. Et si je te réveille pendant le moment de ton rêve, ce sont des expériences médicales. Je te branche des électrodes, et chaque fois que je vois un mouvement sur l'écran de l'ordinateur pendant que tu dors, ça veut dire que tu es en train de rêver, je te réveille. Imaginez-vous, un type qui dort, avec des électrodes, moi je suis assis toute la nuit, je regarde l'écran. Dès que je vois un mouvement sur l'écran, ça veut dire qu'il est en train de rêver. Pour ne pas le laisser rêver, je le bouscule. Donc il va se réveiller, son rêve va s'arrêter. Et chaque fois qu'il va rêver, je vais faire pareil. Au bout de 3 jours, c'est un zombie et il est proche de la mort. Que vous sachiez.
Quelle torture empêcher les gens de rêver.
Tout à fait. Tout à fait. C'est la mort d'ailleurs. Au bout de 3 jours, la Gemara dit qu'il meurt. Oralité, on ne dort pas pour se reposer, on dort pour rêver. Donc vous pouvez vous endormir 10 minutes dans un bus ou dans un train, vous vous réveillez après les 10 minutes, vous avez l'impression que vous avez dormi 18 heures. Et des fois, tu te lèves d'une nuit entière, tu te demandes même si tu as dormi, tu es encore plus fatigué que la veille. Alors, vous ne vous rappelez pas de vos rêves, tous. Ça aussi, c'est un signe. Il faut se rappeler de ses rêves. C'est très important. Si vous ne vous rappelez pas de vos rêves, ça ne veut pas dire que vous ne rêvez pas, mais il faut faire un certain travail. Pour que le rêve devienne transparent. Pour qu'il vous vienne à la conscience. Pour que tu te rappelles de ton rêve. C'est très important. Alors, ce soir, avant d'aller dormir, vous allez vous asseoir sur le lit et vous allez demander à Kadosh Baruch Hu, viens-moi en rêve, donne-moi un message, mais je veux m'en rappeler. C'est bien. Et une fois que tu as eu ce message, tu as des messages. Et quand tu as des messages, tu as des leçons de vie extraordinaires. Je peux vous dire que, en toute humilité, 20% des cours que j'écris, au moins, sont des rêves. C'est-à-dire, je reçois le cours dans la nuit, et je l'écris le lendemain matin. C'est incroyable. Pourquoi ? Parce que la Neshama est libérée, en fait, et elle va là où elle doit aller, à la source. Elle est dans le monde de la liberté totale, donc elle reçoit des informations nécessaire à la vie, à la conduite de la vie. Et donc si tu te rappelles de tes rêves comme Yaakov maintenant, qui s'est réveillé le matin, qui a compris que quoi? Qu'est-ce qu'il dit quand il se réveille? Achen yesh Elohim b'makom hazeh, vezeh shar hashamayim. Dieu se trouve ici. Elohim. Elohim, Yudkevatke, Bamakom Azeh, le tétragramme se trouve ici. C'est où ici? Il était où? Il était où? Har Amoria, à Jérusalem. C'est là-bas. Et il dit, Vezeh Shar Shamayim, traduction, et c'est là La porte du ciel. Qu'est-ce que ça veut dire, la porte du ciel? Quelqu'un peut m'expliquer? N'ayez pas peur, hein. Ils se méfient tous. C'est quoi la porte du ciel? C'est de là où je peux monter? Non.
C'est là où je me rapproche le plus de...
Non. C'est là où Yudke Vavke descend. C'est le contraire. C'est la porte du ciel. C'est pas la porte vers le ciel. La Torah est précise. On dit pas Vezéchar la Shamaï. Vezéchar ha Shamaï. C'est la porte pour le ciel, pour que le ciel descende sur terre. Et ça se trouve où? On est registré. Qui nous dit ce secret-là? Yaakov. Il a découvert que c'est là-bas où l'infini descend dans le fini. À tel point que la Gemara va dire Eretz Israël tout entière, c'est en réalité un ciel et une terre qui s'embrassent sans arrêt. C'est-à-dire, nous sommes dans la terre où l'infini et le fini s'embrassent sans arrêt. C'est magnifique. C'est-à-dire qu'en dehors, il y a divorce entre le ciel et la terre. À tel point que tu n'as pas le droit de prier en dehors de la terre d'Israël. Toute prière qui se fait, vous le savez, en dehors de la terre d'Israël, doit venir horizontalement jusqu'à la terre d'Israël. Et seulement ici, il y a le contact entre le ciel et la terre, donc elle doit monter par ici. Seulement comme dans un monde réel, et aujourd'hui plus difficile qu'avant, tu dois un test PCR, tu dois un ESTA, tu dois un machin, tu dois le Shboba, tu dois le machin... Les piqûres, les machins, les vaccins, tout ça. Avant de partir, tu es déjà dégoûté. Et quand tu es là-bas, tu penses qu'à tout ce qu'il faut faire pour revenir. Alors imaginez-vous, dans un monde spirituel, c'est exactement pareil. La prière faite en dehors de la terre d'Israël, elle doit passer toutes les frontières avec tous les passeports et les tampons pour arriver en terre d'Israël. Et si tu as un douanier, bon, qui ne veut pas te laisser passer, eh bien tu restes là-bas coincé, machin, etc. C'est pas moi qui vous le dis, hein, c'est le Zohar. Il n'y a aucune prière qui puisse monter de n'importe quel endroit au monde verticalement vers l'infini. Ça n'existe pas. C'est interdit de penser à ça. C'est pourquoi, même si tu es au fin fond de la planète, tu dois penser dans ta tête quand tu fais la Hamida que tu es devant le Kotel, devant le Beth Amikdash, devant le Kodesh HaKodashim. Si tu n'as pas cette vision, tu es mort. C'est horrible. Je voulais prier dans un aéroport la semaine dernière, j'étais en route Laharet. Ils m'ont donné une pièce, on m'a dit c'était là-bas la synagogue. Je suis rentré, il y avait une petite pièce vide, et sur le mur, il y avait une flèche et il y avait marqué Mizra. Allah istaghfir. Imaginez-vous. L'Est. L'Orient. De là vient le mot s'orienter. Chez les Juifs, quand on vous dit tu as perdu le Nord, tu dis Baruch HaShem. C'est l'Est qu'il ne faut pas perdre. D'accord? C'est de là que vient orientation. Orienter, orient. Le Nord, on n'en a rien à faire. Au contraire, c'est la Gboura. C'est la rigueur. Donc, tu as perdu le Nord, tu dis je t'abarque chez moi. Toujours est-il que vous comprenez comment ça marche, il y a une précision dans les choses. C'est pas n'importe quoi. Et ça, c'est le rôle du peuple d'Israël. Comme Yaakov est sorti et que son exil à lui, comprenez bien que lui, dans un homme, il contient tout le peuple d'Israël. Donc c'est sa première sortie en exil à Yaakov. Et c'est tous les exils du peuple d'Israël dans cet exil-là. Et si j'apprends en réalité les halakhot, comment se comporter dans mon exil, par rapport à l'histoire de Yaakov, je vais comprendre comment les exils du peuple d'Israël durant toute son histoire vont avoir lieu et comment je dois me comporter pendant ces exils. Et le plus important de tout ça, c'est la conclusion. Je te ramènerai ici. D'ailleurs, la plus grande des angoisses de Yaakov après être sorti en exil, il le dit, « Va'echar ad ata. » Je me demande si je n'ai pas trop tardé à rentrer à la maison. je me demande si je ne suis pas en retard, si je n'ai pas fait mon alia trop tard. C'est ce que Yaakov dit. Hein. J'ai tardé, j'ai trop tardé. Alors qu'il est en train de revenir. Ça veut dire que chaque juif doit se poser cette question. Et si j'ai tardé, il faut que je rattrape ce retard. Parce que nous sommes dans une période accélérée. Vous le sentez. Tout va très vite. Vous avez l'impression de faire des milliers de choses en très peu de temps. Ce n'est pas par hasard ce sentiment. Ce n'est pas que le temps a changé, c'est le même. Mais le temps est un panier d'actions. Donc plus tu vas mettre dedans des choses, plus tu auras le temps. Il est élastique, il s'élargit. Tu as l'impression de faire plein de choses en même temps. Et ça marche, il y a plein de choses. Et si tu fais rien, ça passe pas. Une matinée, quand je vais en dehors de l'Eretz Israël, j'ai l'impression que c'est deux jours. Une matinée. Ici, trois jours, j'ai l'impression que c'est un jour. J'étais à Nice il y a quelque temps. Une vieille dame me demande, « Monsieur Rabbin, pourquoi les rabbins ici ne parlent pas comme vous ?» Il dit, « Parce que tous ceux qui parlent comme moi, ils sont déjà partis. » C'est ce que je lui dis. Il m'a dit, « Non, je vous demande parce que je ne débranche même plus la plata. Je passe d'un Shabbat en Shabbat. » Je lui dis, « Alors si vous venez en Israël, c'est encore pire. » Motel Shabbat, vendredi. Motel Shabbat, vendredi. Rabotai, nous sommes dans une période messianique. On est déjà dans le développement. Mais je vous fais rire en plus, je vais me faire augmenter. Hein. Ça devient un spectacle, donc... On est dans une période messianique. La seule chose qu'on vous demande, le moins de qui se lève, c'est l'optimisme. Soyez optimiste, rigolez, amenez de la joie dans vos maisons, dans vos familles. Rigolez, faites des blagues, soyez un petit peu coquin, coquine, faites des blagues, ne soyez pas sec, la Torah c'est pas un sérieux qui tire vers la mort, la Torah c'est une simcha, et quand on a cette simcha, eh bien on éclaire tout, c'est ça Hanouka. Hanouka c'est l'éclairage de notre vie par cette lumière de Chokhma, de sagesse divine. Maintenant que vous le savez, c'est difficile. Il y a des expressions, c'est extraordinaire, parce que vous voyez rien, vous voyez que des nuques. Moi, je vois que des visages. Alors, chacun fait une grimace et je peux savoir où il se trouve dans son monde actuellement. Quel ? Mais, Baruch HaShem, ne vous inquiétez pas, vous êtes dans le bon train. Vous êtes dans le bon moment et dans le bon endroit. Et vous êtes les bonnes personnes. Vous avez tout. On a tout pour gagner, on est au bon moment, à la bonne période, et c'est notre peuple d'Israël. Be'ezrat Hashem, soyez dans cet optimisme, dans cet optimisme, et nous allons gagner parce qu'on est condamné à gagner parce qu'on fait partie de l'équipe du patron. C'est tout. Donc Be'ezrat Hashem, Shiyeh Lachem Chodesh Mevorach, et des bonnes nouvelles. Thank you.